Bonjour à tous et bienvenue, vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h sur l'antenne de Graphite. Vous nous écoutez sur graphite.net bien sûr pour ceux qui nous écoutent sur internet et sur la bande FM 94.9 pour ceux qui nous écoutent dans l'Oise, l'Aisne, la Somme, sur la bande FM, je sais pas, dans votre voiture, dans votre cuisine. Bienvenue à vous tous, je m'appelle Jean-Noël et je suis avec Carole encore aujourd'hui.
Salut Jean-Noël.
Bonjour Carole, comment vas-tu?
Très bien et toi?
Mais très bien, je te sens épanouie, je te sens resplendissante, je te sens comme d'habitude. En fait.
Et ça. Oui, et oui, c'est mon état naturel.
Mais ce côté modeste qui te caractérise si bien. Vous écoutez Biotine tous les samedis pour vous tenir informés de l'actualité scientifique. Nous parlons ici de tous les domaines scientifiques et techniques. On parle d'espace, on parle de médecine, on parle de nouvelles technologies, on parle d'objets connectés et on parle aussi de tous ces sujets environnants, d'éthique et de commerce également. Tout est lié avec la science et la technologie. C'est notre avenir qui est en train de se jouer dans les différents rangs, les laboratoires du monde entier. Il y a donc des articles qui sont diffusés par différents supports. Et on profite voilà, de vous faire un petit peu une revue de presse de l'actualité scientifique. Que faut-il retenir de l'actualité scientifique et technique? Eh bien, c'est un petit peu le but de cette émission. C'est ce que nous vous proposons toutes les semaines, Biotine, l'émission de science unique au monde, parce que les autres émissions de science ne comptent pas. Carole, tu sais très bien.
Je ne peux qu'être d'accord et que valider ce propos.
Nous sommes le 22 juin. 22 juin, c'est la journée nationale de la réflexion sur le don d'organes et la greffe.
Important.
Donc c'est une journée nationale. On reste en France, hein. C'est pas une journée internationale. C'est uniquement en France. Il n'y a pas de journée internationale aujourd'hui, le 22 juin, parce qu'on s'est dit hier, c'était le 21 juin, il y a plein mal de choses. Le 22, on se repose. Et donc, en France, on s'est dit, tiens, le lendemain de la fête de la musique, on va peut-être essayer de réfléchir, parce que c'est une journée de réflexion, sur le don d'organes et la greffe. Très peu d'éphémérides d'un point de vue scientifique et technique. Il n'y a pas eu énormément de choses qui se sont passées à 22 juin, décidément. Je pense que tout le monde dormait ou réfléchissait les lendemains de journée de fête de la musique, ou si ce n'est la journée la plus longue. Par contre, il y a eu une naissance, le 22 juin 1887 de Sir Julian Sorrell Huxley, biologiste britannique, auteur internationaliste. Il est connu notamment pour ses livres de vulgarisation sur la science. Il a été le premier directeur de l'UNESCO et il a fondé le WWF. Huxley était un partisan de l'eugénisme comme moyen d'amélioration de la population humaine. Je cite, une fois pleinement saisi les conséquences qu'implique la biologie évolutionnelle, l'eugénique deviendra inévitablement une partie intégrante de la religion de l'avenir ou du complexe de sentiments, quel qu'il soit, qui pourra dans l'avenir prendre la place de la religion organisée. Mon Dieu, mon Dieu. Alors, en tout cas, relativisons. Il croyait à l'égalité des races et il critiquait fermement les deux extrémismes eugénistes qui ont émergé durant les années 1930. Le nazisme, bien sûr, et son racisme un peu criminel à l'égard des handicapés, des tziganes, des juifs, des homosexuels, et ainsi de suite, qui se traduit par la stérilisation ou l'extermination de tous. Comme ça, c'est radical. Et le deuxième extrémisme, c'est l'idée selon laquelle la classe ouvrière serait génétiquement inférieure dans les années 1930. C'est assez extraordinaire. Et donc lui, il était totalement bien sûr contre ces aspects-là et ces idéologies. Et il a donc été anobli Sir Julian Sorrell Huxley, qui est donc né un 22 juin 1887 et il est mort en 1975. Journée donc de réflexion sur le don d'organes et année internationale du tableau périodique des éléments de Mendeleïev. Donc depuis la première émission de janvier, toutes les semaines, nous remplissons une case. Et aujourd'hui, je ne sais pas, je me suis dit, Carole était présente dans ce studio. Avec Carole, c'est toujours un peu parfois sulfureux. Donc le soufre,
le
évidemment.
Soufra, oui.
Le soufre qui n'est pas un métal, le couleur jaune et qui fond en formant un liquide de couleur rouge sang et qui brûle en formant une flamme bleue. C'est vraiment coloré en fait le soufre. Il est capable de se combiner avec de l'hydrogène afin de former le sulfure d'hydrogène, un gaz toxique qui possède une odeur qui est facilement reconnaissable parce que c'est un petit peu l'odeur de l'œuf pourri évidemment à base de soufre. Le soufre est présent dans les régions volcaniques mais également présent dans de nombreux gisements de charbon, de pétrole ou de gaz. Au cœur du parc naturel de Yellowstone aux États-Unis, eh bien se trouvent des lacs aux couleurs totalement génial. Vous pouvez voir des photos, d'ailleurs, vous tapez le parc naturel de Yellowstone. Il y a des images formidables de ces lacs. C'est jaune, c'est rouge, c'est orange. On a envie de se baigner dedans. Et bah, faites attention, parce que les vapeurs de soufre qui s'échappent de ces lacs forment de l'acide sulfurique. L'eau, elle est extrêmement acide. Elle a un pH proche de zéro. Pour les chimistes, un pH proche de zéro, c'est bien dire ce que ça veut dire, c'est de l'acide pur, en fait. Tu fonds dedans.
Horrible.
Donc, c'est joli à regarder, mais uniquement en photo, bien sûr. Le soufre vient du latin sulfur, et ses utilisations sont connues depuis l'Antiquité, mais il faudra quand même attendre les années 1770. On est un peu avant la Révolution. À l'époque, le chimiste le plus connu était Lavoisier. De cette époque-là. C'est lui qui réussit à convaincre la communauté scientifique de reconnaître le soufre comme un élément chimique à part entière et non pas comme un composé chimique, parce qu'en fait, on l'associait souvent avec d'autres éléments. Là, Lavoisier dit non, le soufre, c'est un élément chimique à part entière et on lui a donc donné le nom de soufre, symbole chimique, le grand S majuscule, bien sûr. Et c'était la case numéro 16. Voilà pour cette éphéméride pour ce 22 juin. On retrouvera dans cette émission du 22 juin également tout à l'heure Anne Fleur dans cette émission qui, depuis quelques semaines, nous permet de nous balader à travers le monde. Elle choisit une ville au hasard et elle nous parle un petit peu des inventions qui ont été créées dans cette ville. On était parti la semaine dernière à Shanghai. On revient un petit peu plus en Europe, en tout cas pour cette émission. On verra ça au cours de l'émission de Biotine. Carole, de quoi vas-tu nous parler ?
Alors, j'avais un peu fait un premier teasing la semaine dernière.
Tu voulais nous parler d'une tête de loup.
Une tête de loup géant de 40 000 ans qui a été découverte dans les glaces de Sibérie. De quoi s'agit-il ? Eh bien, une tête de loup impressionnante. Beaucoup de médias l'ont relayé, mais il y a eu un article donc, récemment dans Science et Avenir. Elle a été découverte en Sibérie. Elle devrait permettre aux chercheurs d'en apprendre plus sur cette lignée de canidés qui a laissé place désormais au loup moderne. Alors, cette gigantesque tête de loup vieille, donc là, moi j'ai 32 000 ans. Bon, 32 000, 40 000, on va pas chipoter.
Oui,
hein.
C'est pareil.
On n'est plus à quelques années près. Elle a été retrouvée en fait avec un cerveau et des dents intactes. C'est l'Académie des sciences locales de Sibérie qui donc l'a communiqué. Alors, quand on voit les photos, je vous conseille d'aller regarder sur internet, c'est intéressant, ça fait un peu peur, on dirait que c'est faux. Enfin, oui. La tête est recouverte de fourrure et ça ressemble un peu à celle d'un mammouth. C'est un peu bizarre. On se dit, oula, c'est pas le loup qu'on a l'habitude de voir. En fait, elle a été découverte durant l'été 2018 au bord d'une rivière en Iakoutie. C'est en Sibérie orientale. Tout simplement par un habitant. J'imagine qu'il se baladait et s'est dit, c'est bizarre.
Oui, c'est quand même bizarre, c'est la bête du Gévaudan presque.
Ben oui, même, oui ça y ressemble un peu. Donc évidemment, la tête a été remise à l'Académie des sciences de Iakoutie et elle a été étudiée par des paléontologues russes. Ah, on parle un petit peu de paléontologie, je suis contente.
Je sais bien que tu choisis toi-même tes articles.
Voilà, et donc russes et japonais, ils ont collaboré et ils ont établi qu'il s'agissait d'une tête de loup du Pléistocène. Âgée donc de 32 000 ans. Au moment de sa mort, l'animal avait entre 2 et 4 ans. La taille de sa tête, longue de 41,5 cm, correspond en fait à la moitié du corps d'un loup contemporain, dont la longueur se situe entre 66 et 86 cm. Alors, pour les chercheurs, cela a permis de conclure que le loup du Pléistocène était gigantesque. Cette tête, elle contenait en fait un cerveau intact et toutes les dents préservées également. Donc, c'est une découverte qui est sensationnelle. Les chercheurs se sont frottés les mains. Les tissus et la fourrure étaient également intacts. Et donc, au final, c'est la première fois qu'on découvre les restes d'un loup du Pléistocène avec des tissus préservés. Alors, donc, Albert Protopopov de l'Académie des sciences de Iakoutie nous dit que, justement, ils vont le comparer avec les loups contemporains pour comprendre comment il a évolué et reconstruire son apparence. Il y a aussi une histoire d'ADN, en fait, puisque... Du coup, il y a une bonne qualité des tissus. Donc, l'examen de l'ADN du canidé, il va être effectué en coopération avec des chercheurs du Muséum d'Histoire Naturelle de Suède. Et donc, le journal les a également contactés. Et le professeur Love Dallen confirme « J'étais sur le terrain en Sibérie lorsque nos collègues russes l'ont découvert et nous avons recueilli des échantillons sur le terrain. Ce spécimen fait en réalité partie d'une étude plus vaste. Nous voulons comprendre la relation évolutive entre la lignée éteinte du du loup du Pléistocène et les loups modernes, car le crâne du loup appartient probablement à la lignée des loups des steppes du Pléistocène et nous espérons en maintenant obtenir de l'ADN de suffisamment bonne qualité pour séquencer son génome. Donc voilà, derrière cette découverte, il y a une volonté de séquencer le génome. En fait, ils veulent savoir, hein, ces chercheurs, exactement quand et pourquoi ces animaux ont disparu, d'où viennent les loups modernes qui les ont remplacés. La datation de ce remplacement, elle est entre 20 000 et 30 000 ans. Donc on ne sait pas exactement, ça laisse quand même 10 000 ans de suspense. Et donc voilà, sûrement que le séquençage de ce génome nous permettra d'en apprendre donc beaucoup plus sur cette lignée des loups. Donc le loup du Pléistocène n'a pas fini de nous apporter de nouvelles informations.
Eh bien, je vous invite à regarder cet article dans différents sites internet.
La tête est vraiment sur différents
l'image
sites.
L'image est assez impressionnante. C'est vrai que c'est assez intéressant. Donc voilà.
C'est un article qui ça me fait penser parce que j'ai lu plusieurs articles justement dessus. Pourquoi est-ce qu'en fait, d'un coup, on l'a retrouvée, cette tête? C'est parce qu'en fait, elle était piégée dans le pergélisol. Donc c'est le permafrost. Et donc c'est la fameuse couche de glace permanente et imperméable qu'on trouve dans les régions arctiques. Donc en fait, elle est quand même en train de fondre. Je sais qu'on parle souvent du réchauffement climatique,
ça illustre très bien encore.
En cette saison estivale, on peut quand même justement dire que c'est assez inquiétant, puisque donc elle est en train de fondre. Et les scientifiques, bon, qui alertent sur le phénomène, c'est pas pour rien, parce que alors c'est super, on retrouve plein de restes d'animaux, on peut comprendre plein de choses. Mais en fait, apparemment, donc cette couche, elle contient aussi des milliards de tonnes de gaz à effet de serre et aussi de nombreux virus. Virus qui ne sont, pour lesquels on n'avait pas à s'inquiéter, mais pour lesquels on n'est certainement pas immunisé.
Bien sûr.
Non, je voulais préciser pour terminer. Je trouvais que l'article était un peu trop joyeux. Je me suis dit, il faut quand même
réussir à plomber l'ambiance dès le départ de l'émission. Non, mais tu as raison. Ça illustre encore sujet de réchauffement climatique,
Bien sûr.
Mais au niveau des virus, on peut considérer du coup qu'ils aient pu hiberner, entre guillemets. C'est ça l'idée, en fait.
Là, je ne sais pas s'il y a des exemples, mais apparemment, oui, on le considère.
C'est peut-être possible.
Il peut y avoir des virus qui soient toujours contenus dans la glace et qui soient libérés potentiellement.
On sait qu'il y a des micro-organismes qui sont résistants à des conditions vraiment extrêmes. Donc, il n'y a pas de raison dans ce cas-là. Et c'est intéressant parce que c'est un peu l'une des rares fois où on évoque aussi cet aspect-là du réchauffement climatique. On n'y pense pas.
Et parce que dans les articles, en plus de paléontologie, c'est toujours super. Ils ont fait des découvertes, etc. Mais là, donc, c'était justement dans un autre média qui en parlait et qui disait que finalement, ce phénomène, il alertait énormément parce qu'il peut avoir des conséquences quand même désastreuses.
Bon, et bien on suivra donc ça de près. Encore, décidément, on a plein de choses à suivre de près. Au bout d'un moment, on n'arrive plus à suivre. Il nous faudrait des assistants, en fait, je pense.
On va faire la demande à Radio Graphite.
Il y a beaucoup de choses à demander, je pense, à la direction de Graphite. Déjà que la semaine dernière, nous avons dit que nous souhaitions partir ensemble à la Station Spatiale Internationale, nous payer un petit séjour là-bas et faire une émission directe, pourquoi pas.
Ça fait peut-être beaucoup.
Je ne sais pas, on verra ce que nous dira la direction. On va quand même partir dans les étoiles, c'est qu'à le dire d'ailleurs. On va partir vers HD 8574. Alors c'est ce sont les astronomes qui l'appellent comme ça, HD 8574, et parce qu'elle n'est pas visible à l'œil nu, et bien cette étoile, car je te parle d'une étoile, elle n'a jamais reçu de jolis noms comme des homologues un petit peu plus brillantes. On peut penser à Sirius, on peut penser à Vega. Elle, non, on s'est dit on va l'appeler HD 8574, mais ça va changer parce que les Français sont invités par l'Union Astronomique Internationale, dont c'est le 100e anniversaire cette année, nous dit-on, ils sont invités à lui choisir un nom. C'est ça qui est intéressant. Il y a une campagne internationale qui est déjà rejointe par près de 100 pays du monde entier. Et donc, une étoile, dans tous les cas visible dans un petit instrument d'observation, et on va dire un petit peu l'exoplanète qui lui gravite autour, chaque étoile a été attribuée à chaque pays qui participe à cette campagne internationale, en fonction notamment de leur visibilité depuis les contrées. Alors, par exemple, il y a les Belges qui vont pouvoir élire un nom pour une étoile naine jaune qui ressemble beaucoup au Soleil et avec sa planète, qui s'appelle HD 49674. Donc les Belges vont lui choisir un nom. En Algérie également, les citoyens algériens vont décider le nom d'une géante gazeuse qui rappelle un peu Jupiter. Et puis à l'autre bout du monde, sous le ciel austral, il y a les Chiliens qui pourront également se prononcer sur une étoile qui s'appelle HD164604. Donc eux également, il y en a plusieurs qui vont participer. Et donc, la France également est appelée à se prononcer pour baptiser cette jolie étoile HD8574. On a tous jusqu'à novembre pour faire nos choix. La proclamation des nouveaux noms officiels sera faite en décembre prochain. Donc vous pensez bien que dans cette émission, on va suivre cela de près. Et pour chaque pays, il y a un comité national choisi par l'Union Astronomique Internationale qui est chargé de mettre en place le vote. Cet événement passionnant invite tous les citoyens du monde à réfléchir à leur place collective dans l'univers, tout en stimulant la créativité et la citoyenneté mondiale. C'est ce qu'a déclaré la présidente de l'Union Astronomique Internationale. Elle s'appelle Debra Helmel-Green. L'initiative justement de cette campagne nous rappelle que nous sommes tous réunis sous un même ciel. Elle a tellement raison.
Oui.
Donc, si vous êtes amené à essayer de trouver un nom, donc je vais vous donner quelques indications sur cette étoile et puis on va tous ensemble réfléchir. Donc HD8574, c'est une étoile située à 144 années-lumière en direction de la constellation des Poissons. Elle est plus brillante que notre Soleil.
Mmh.
Elle est un peu plus massive également. Et comme elle est de magnitude 7, nous dit-on, ça veut dire qu'elle n'est pas visible à l'œil nu, mais on peut l'observer facilement dans une lunette ou un télescope. Sa proximité vue de la Terre, de la galaxie, du triangle M33 la rend assez facile à la repérer dans la nuit, nous dit-on. C'est donc une géante gazeuse deux fois plus massive que Jupiter. Elle a été découverte en 2003. Elle tourne autour de son étoile en près de 228 jours, nous dit-on. Et oui, parce que pardon, il y a l'étoile et il y a la planète, oui, qui tourne autour. Là, je vous parle de la planète qui est une géante gazeuse et qui est un peu plus massive que Jupiter. Et elle tourne autour de son étoile environ 228 jours, donc un petit peu plus rapide que nous. Et sa température est estimée à environ 82 degrés Celsius. C'est pas énorme, en fait, quelque part, c'est jouable. Voilà, donc vous avez tous ces éléments, vous réfléchissez, vous vous inscrivez, vous allez vous renseigner sur le site internet de l'Union Astronomique Internationale. Vous avez donc la possibilité de choisir un nom pour cette étoile. Les propositions se terminent en novembre et proclamation des résultats en décembre. On suivra ça, bien sûr. Est-ce que tu as une idée de nom pour cette étoile ?
Alors là, pas du tout. Non, surtout quand elles ont toujours des noms, à part celles qui sont très connues.
Oui, parfois il y a une partie, parfois un peu de mythologie, oui, qui apparaît, mais là on n'est pas obligé de suivre cette piste-là. On peut proposer, nous, l'étoile graphite. Ça pourrait être très sympa.
Ah.
À savoir.
Ben, mais... c'est à tenter. Je te laisse poser la candidature pour ce nom.
Je vais écrire et puis on verra bien si ça peut fonctionner.
Ce serait chouette.
Mais voilà, on est donc amené. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas souvent l'impression que. On est sollicité en fait dans cette démarche-là.
Oui, c'est vrai.
Et donc voilà, il y a plein d'étoiles qui sont en train d'être baptisées par une centaine de pays du monde entier. Et donc la France, elle, se focalise sur HD8574. Je n'ai aucune transition.
Mais
Caroline,
moi, j'en
ne me
ai
regarde pas
une
comme ça.
Parce que justement, en fait, c'est ce que j'étais en train de me dire. Plutôt que de réfléchir au nom, j'ai besoin d'inspiration. Là, je l'ai pas tout de suite. Mais je me suis dit, bah oui, je vais parler de l'éclipse solaire totale du 2 juillet 2019.
Mais oui, c'est vrai.
Donc évidemment, pareil, hein, on peut retrouver les informations dans de nombreux médias. J'ai choisi donc Science et Avenir, qui nous rappelle que cette éclipse de soleil donc aura lieu. Notez bien la date. Le 2 juillet prochain, et elle pourrait être, alors par contre c'est un peu ce qui est dommage, elle ne pourra pas être visible en France, hein. Elle pourra être scrutée par les astronomes qui se sont donc préparés au niveau dans une grande partie du Pacifique ainsi qu'en Argentine et au Chili.
Écoute, il faut se déplacer pour aller voir l'éclipse.
Mais je me dis, c'est en été, il y a pas mal de gens qui seront en vacances, on ne sait jamais, mm-hmm. Il vaut mieux les prévenir. Donc la Lune s'intercalera entre la Terre et le Soleil. L'éclipse va débuter donc à l'est de la Nouvelle-Zélande à 16h55, pour s'achever au-dessus de l'Argentine à 21h50. Donc là, c'est des temps hors fuseau horaire. Voilà, vous pouvez retrouver toutes les informations sur Internet. Étant donné qu'elle traversera une grande partie de l'océan Pacifique, peu de gens pourront en profiter. Mais dans cette partie-là, à moins que vous soyez en bateau en train de passer.
Ben oui, effectivement, c'est vrai que c'est une zone pas simple.
Mais bon, voilà, il y aura quand même, une étroite bande qui va couvrir donc toute la largeur de l'Amérique du Sud. Mais pour les astronomes, évidemment, et tous les spécialistes du Soleil, c'est une éclipse particulière. Elle sera en effet visible depuis l'Observatoire européen austral de la CIA au Chili. Donc, une éclipse totale au-dessus d'un centre équipé des télescopes les plus performants de la Terre, et bien cela en fait ne s'est produit que deux fois au XXe siècle. En 1961, au-dessus de l'Observatoire de Haute-Provence en France, et plus récemment, en 1991, au Mauna Kea à Hawaï. Plusieurs expériences sont prévues pour l'occasion, comme la reproduction de la fameuse observation de 1919, qui avait permis au physicien britannique Arthur Eddington d'apporter au monde la première preuve observationnelle de la relativité générale d'Albert Einstein. Une expérience menée en collaboration avec l'Agence spatiale européenne sera également conduite pour scruter l'exosphère de Mercure en prévision de la mission Bepi Colombo. Alors, je ne connaissais pas le nom, mais voilà, mission qui a l'air de concerner donc Mercure. Donc là, vous allez me dire, d'accord, donc, mais quand est-ce qu'on aura la chance de pouvoir à nouveau assister à ce phénomène en France ? Eh bien, d'après les calculs, ce sera en 2081.
Oula.
Il va falloir tenir le coup.
Ah oui, c'est, oui,
parce
c'est
que
raide, là.
Je ne suis pas certaine, en fait. Bon, on peut, je me le souhaite, mais on ne sait jamais. Hein. Peut-être d'être encore là.
2081. Ouais, non, je pense que j'ai plus de chances, à mon avis, de partir au Chili pour l'avoir.
Dans
2081.
Oui, ouais, voilà, 62 ans. Bon, on ne dira pas nos âges,
c'est
mais
assez violent.
Voilà, il faudrait peut-être arriver vers la centaine d'années. Une éclipse donc de soleil. Donc comme on l'a vu, hein, ça se produit pour cela quand la lune passe en fait s'interpose entre le soleil et la Terre sur un même axe. C'est pour ça que ça n'arrive pas tout le temps, c'est ce que je disais, parce qu'en plus le diamètre de la lune est 400 fois plus petit que celui du soleil et le soleil 400 fois plus éloigné de notre planète que la lune. Donc mais ah oui, c'est aussi pour ça que, en fait, quand l'un passe devant l'autre, enfin que la Lune passe devant, en tout cas, les diamètres apparents coïncident. Et la Lune peut alors entièrement ou partiellement, selon la position de l'observateur, occulter donc le Soleil. À chaque fois, évidemment, c'est l'occasion d'attirer hein, des milliers de personnes pour l'observer. En plein jour, se retrouver dans le noir, c'est vrai que c'est particulier. Donc, elle était visible en 2017 hein, depuis les États-Unis et apparemment, ça avait suscité un engouement qui était extraordinaire. Donc, pour la prochaine en France, 2080, on oublie. Si on veut d'autres dates pour les voyageurs, on a le 14 décembre 2020, où elle traversera encore une fois le Pacifique, le Chili et l'Argentine.
Encore ?
Oui, encore. Ils ont de la chance, là. Ils ont deux fois de suite. Je trouve ça un petit peu...
C'est injuste.
Si vous habitez en Guyane, ouais. Vous avez la chance d'y aller. Là, vous n'aurez qu'à attendre le 12 août 2045. Voilà. Et pour les Espagnols, ça c'est encore plus facile. Hein. On peut aller en vacances en Espagne quand même. Ça nous fait pas trop loin. Eux, ils pourront en profiter en 2026.
Oh,
j'espère que vous avez bien noté toutes les dates dans votre agenda.
Ben, on se souvient de l'engouement il y a 20 ans déjà. C'était en 99, je crois, de cette éclipse de soleil en France.
En fait, j'ai un doute. C'est-à-dire qu'au moment où je l'ai lu, j'étais en train de réfléchir parce que d'après ce qu'ils disent, parce que là ils en parlent pas d'une totale. Il faudrait que je recherche. Je vais regarder. Elle était totale ou
quand on avait totale.
Quand on avait les lunettes là, qu'on les avait tous.
Elle était totale. C'était pour ça justement et elle passait par Paris. Elle passait par pas très loin ici de Compiègne, je crois également. Donc c'était vraiment passée par Fécamp, il me semble. Donc oui, c'était l'éclipse totale en 1999. On se rappelle de l'engouement, parce que c'est vrai que c'était un spectacle assez.
Mais je me souviens de cette histoire de lunettes. On était tous avec nos lunettes. Oui.
Parce qu'il fallait à tout prix avoir des lunettes. Et donc il y avait. Je ne sais pas, il y avait un développement à l'époque qui était moins performant. Maintenant, je pense que ce serait plus simple d'en avoir. Mais à l'époque, c'était quand même beaucoup plus difficile. Et donc il y avait eu aussi cette campagne. Évidemment de sensibilisation et de prévention en disant ne regardez pas à l'œil nu, ce qui est évident.
Et en effet, oui, donc là je viens de chercher, donc c'est bien ça, puisque du coup, à partir de l'an 2000, la France n'a connu que des éclipses partielles. Et donc c'était bien le 11 août 1999.
Le 11 août, oui, c'était en plein mois d'août, effectivement. Je te propose de rester du coup, alors tu as parlé de l'Espagne, de la France, on va aller un tout petit peu en Allemagne, si ça te fait rien. C'est Anne Fleur qui nous propose de parler de Berlin.
Allons-y, c'est parti.
Personnellement, je ne connais pas Berlin.
Je connais, c'est une c'est très ville, très ouais. chouette ville. Ouais. Oui,
eh
oui.
bien écoute, même en termes d'innovation et d'invention, il y a eu pas mal de choses faites à Berlin. Et comme Anne Fleur est toujours insatisfaite de ce qu'elle fait, elle profite de parler de Berlin pour, comme elle est à Boston, elle va faire les 3B. Boston, elle passe par la Bretagne et elle termine par Berlin. Elle avait envie de revenir sur la Bretagne, je ne sais pas pourquoi, ça doit être Anne Fleur. Bonjour Anne Fleur.
Hello Compiègne, hello les studios et bonjour Jean-Noël. Alors nous voilà de retour en Europe aujourd'hui pour découvrir les innovations et inventions d'une région du monde. Avant de nous lancer, je voudrais d'ailleurs compléter mon propos sur les découvertes de la Bretagne dont je vous parlais il y a quelques semaines, puisque cela a fait réagir certains d'entre vous. La Bretagne est bel et bien connue aussi pour les télécoms, et j'ai omis une invention assez spectaculaire qui vous intéressera, j'en suis sûre. Dans les années 90, à Télécom Bretagne, ont été inventés les turbocodes. Alors qu'est-ce que c'est ? Ce sont des codes correcteurs d'erreurs qui permettent de multiplier par 1000 voire plus la vitesse de transmission des informations sur les réseaux sans fil. C'est ce qui a notamment permis d'augmenter d'autant les débits des données, donc pour qu'on puisse regarder des films, écouter de la musique, qui arrivent sur nos téléphones portables en 3, 4 et même 5G. C'est aussi ce qui nous permet d'avoir, avec Waze par exemple, un GPS sur nos téléphones tout en roulant en voiture. Les deux inventeurs sont Claude Berrou et Alain Glavieux. Alors voilà, on les applaudit, car c'est effectivement une invention majeure dont nous bénéficions tous les jours. Voilà, pour aujourd'hui, pour cette mise à jour. Et alors, où partons-nous aujourd'hui ? Cap à l'Est complet, mais on va un petit peu moins loin que la semaine dernière, direction Berlin. Et cette semaine, nous allons parler gueule de bois, pharmacie et encore mode. Ah, les Allemands sont pleins de surprises, vous allez voir. C'est parti. La prochaine fois que vous souffrirez d'une gueule de bois ou tout simplement d'une grosse grosse migraine, remerciez le chimiste allemand Felix Hoffmann qui a inventé l'aspirine pour soulager les douleurs de son père au début 1900. Alors au 19e siècle, il y a bien un Français, Pierre-Joseph Leroux, qui avait isolé le principe actif de l'écorce de saule, la salicyline. Puis les Allemands et les Italiens ont développé l'acide salicylique, future aspirine, sauf que si son usage se répand pour traiter les fièvres et les douleurs, il provoque d'énormes brûlures d'estomac. Donc des effets secondaires qui ne sont pas évidents à gérer. En 1853, Charles-Frédéric Gerhardt fabrique un acide acétylsalicylique qui lui est beaucoup moins corrosif. Et c'est là que l'histoire de l'aspirine prend un tournant décisif puisque Bayer, un labo, un gros labo pharmaceutique allemand, et notre cher Felix Hoffmann qui y travaille, reprennent les recherches sur cet acide acétylsalicylique et développent le brevet de l'aspirine tel que nous le connaissons aujourd'hui. Alors pour rester sur le sujet de la gueule de bois ou des lendemains de fête, une fois la migraine bien traitée, on a bien souvent, besoin d'un bon café. Et c'est à Amalie Auguste Melita-Benz, une entrepreneure allemande, que l'on doit l'invention du filtre à café en 1908. En tant que femme au foyer, Benz était très frustrée car elle surbrassait son café. Et elle se lança donc dans une série d'expériences avec différents types de papier et de tissus et inventa ce que nous connaissons tous aujourd'hui comme le filtre à café. Merci madame. Et alors, si on parlait mode deux secondes, un certain Lévi-Strauss, donc un homme d'affaires germano-américain et émigré juif aux États-Unis, ainsi que Jacob Davis, ont développé le premier brevet du jean en 1873. Et le jean, en fait, il a été initialement pensé comme un pantalon de toile qui serait ultra résistant et pratique pour les chercheurs d'or pendant la ruée vers l'or, et donc l'Ouest américain. Et en fait, c'est assez marrant parce qu'à la base, Lévi-Strauss, il s'installe sur la côte ouest américaine pour ouvrir une succursale du magasin de son frère, qui était alors d'ailleurs, je crois, basé à New York. Et en fait, il vend en gros des tissus. Alors bien entendu, l'épopée du jean changea radicalement la destinée du magasin. Et la marque annonçait d'ailleurs plus de 4,8 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2011. Donc une jolie histoire. Parlons maintenant un petit peu sport et transport. En 1817, le baron Karl von Drey, ou Dreis, je ne sais pas trop comment on dit, a inventé la Laufmaschine. Pour ceux qui parlent allemand, Lauf, ça veut dire courir. Et donc en gros, c'était la machine à courir. Il s'agit là en fait de la première machine dont le moteur est humain, si je puis dire, à deux roues, et ce fut un véritable succès commercial. Alors même si les Français y ont ajouté un peu plus tard les pédales, pour éviter de courir, ne vous en déplaise, le vélo est bel et bien allemand. Et enfin, parlons science. Les rayons X sont allemands eux aussi. Le médecin Wilhelm Conrad Röntgen les découvra en 1895, il y a un peu plus de 120 ans. Et il les a rendus populaires dans la communauté médicale. Et pour la petite histoire, il les inventa par accident, puisqu'en fait, il cherchait à faire passer du courant à travers des tubes cathodiques en verre. Plutôt chouette comme accident, puisque les rayons X sont quand même utilisés tous les jours pour faire des radios, des scanners, ou encore à l'aéroport pour inspecter nos sacs, par exemple. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que je vous ai appris 2-3 trucs. Merci à nos voisins allemands pour l'invention du vélo, des rayons X, des jeans, mais encore du filtre à café et de l'aspirine. Je vous souhaite à tous un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine.
Merci Anne-Fleur. Effectivement, je n'aurais jamais associé le filtre à café et Berlin. Non, mais c'est vrai.
Non, c'est vrai.
Je ne pensais pas d'ailleurs. Tu n'associes pas même le café et Berlin quelque part. Tu verrais plutôt d'autres pays, mais pas du tout. Voilà, le filtre à café, effectivement. Merci Anne-Fleur. C'est bien ce que ça nous fait voyager. Ça nous permet un petit peu d'avoir un recul sur certaines choses. C'est ça qui est intéressant. Et puis d'avoir un aspect aussi un peu historique au niveau des sciences. Donc c'est toujours passionnant en restant derrière notre micro. Tu vois, nous étions à Shanghai la semaine dernière. Nous sommes à Berlin. Et la semaine prochaine, je crois qu'elle nous emmène encore assez loin. C'est ça qui sera intéressant pour la dernière émission de la semaine prochaine. On écoute peut-être un petit peu de musique parce qu'il y a déjà une bonne demi-heure que nous sommes en train
Mais oui.
Et c'est tellement plaisant. Mais parfois, il faut aussi un peu de musique, Carole, en toutes circonstances. Donc, on écoute un petit titre sur l'antenne de Graphite. Et on se retrouve juste après. Un petit teasing, peut-être, Carole. Tu vas nous parler de quoi ? Moi, je vais vous parler du cholestérol. Donc, déjà, ça va un petit peu plomber l'ambiance. Mais toi, tu vas nous parler de...
De décès nucléaire.
Très bien. Eh bien, un peu de musique pour nous adoucir.
Yeah.
Graphite 94.9 FM.
Et c'était The Barberettes avec When It's Raining sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h pour vous tenir informé de l'actualité scientifique et pour pouvoir ensuite briller en société. Et nous vous proposons voilà, un petit menu qui passe par l'espace, qui passe par l'histoire, qui passe par la médecine, par les nouvelles technologies et qui passe aussi par l'aspect nucléaire apparemment. Carole, c'est toi qui va nous parler de cet aspect-là.
En fait, à l'occasion de la sortie de la série Tchernobyl, parce que je ne sais pas si vous en avez entendu parler, il y a même des gens qui maintenant vont se balader à Tchernobyl pour prendre des photos.
Parce que c'est vraiment le nouveau lieu où il faut aller.
Je trouve ça génial. Les gens ont fait la série et puis ensuite, il y a des comportements quand même complètement hallucinants. J'ai vu passer cet article qui a été donc publié dans Science Post et qui parle des restes d'essais nucléaires qui ont été retrouvés en fait dans les entrailles de la Terre. Alors, de quoi s'agit-il ? C'est donc une étude qui a été réalisée et qui nous révèle que le carbone radioactif rejeté dans l'atmosphère par les essais de bombes nucléaires dans les années 50-60, je dis bien les années 50-60, eh bien, ils contaminent aujourd'hui les abysses. Alors, on sait, ces essais nucléaires, ils ont été menés en divers milieux océaniques au cours du siècle dernier et ils étaient destinés à tester de nouvelles armes à l'époque. Leur bon fonctionnement, la sûreté, etc. J'aime bien le mot sûreté dans ce contexte. Et ils avaient également une fonction de démonstration politique de la puissance militaire du pays. Mais ces essais, bien sûr, n'étaient pas sans risque. Si l'on met de côté la contamination humaine, nous savons que les organismes présents à la surface de l'océan ont également été pollués par les rejets de carbone radioactif. Qu'est-ce qui s'est passé en fait ? Eh bien, le carbone donc, a coulé au fond des océans, nourrissant et polluant à leur tour les petits crustacés, les amphipodes, qui sont situés dans les plus grandes profondeurs. En tout cas, c'est ce que montre cette étude qui a été publiée dans le Geophysical Research Letters. Ce sont des chercheurs de l'Académie chinoise des sciences de Guangzhou, en Chine, qui expliquent...
C'est pas drôle du tout.
Mais je te vois forcément, je te vois bouger, je te vois faire autre chose.
Excuse-moi, je suis en train de faire. Je suis aussi à la réalisation technique de cette émission.
Je sais bien. Donc ils expliquent, ces chercheurs, avoir analysé les tissus musculaires et le contenu intestinal d'amphipodes recueillis donc en 2017 au fond de plusieurs grandes fosses océaniques, y compris dans la fosse des Mariannes qui plonge à 11 km de profondeur. Et les résultats de leur étude, ont montré des concentrations de carbone 14 bien supérieures à celles de la matière organique retrouvée aux mêmes profondeurs. Alors, Nina Wang, géochimiste à l'Académie chinoise donc des sciences de Guangzhou et principal auteur de l'étude, nous explique que, bien que la circulation océanique prenne des centaines d'années pour amener de l'eau contenant donc une bombe, donc c'est-à-dire contenant le carbone radioactif, dans la tranchée la plus profonde, eh bien la chaîne alimentaire y parvient beaucoup plus rapidement en réalité. Il existe une très forte interaction entre la surface et le fond en termes de système biologique et les activités humaines peuvent affecter les biosystèmes jusqu'à 11 000 mètres de profondeur. Et ce qu'elle dit également, c'est que donc, ça suggérerait de faire attention à nos comportements futurs. Ces amphipodes évoluant en grande profondeur, ils sont par ailleurs plus gros et vivent plus longtemps que leurs homologues repérés en eau peu profonde. Ceux repérés en eau peu profonde, en fait, ils vivent généralement moins de 2 ans et atteignent une longueur moyenne de 2 cm. Ceux qui sont donc plus au fond, qui ont une espérance de vie d'environ 10 ans, ils peuvent aller jusqu'à 9 cm de long. Et ces caractéristiques physiques, on apprend qu'elles sont en réalité le résultat d'une adaptation à leur environnement. En bas, les températures du coup sont plus basses, les pressions élevées et les sources de nourriture sont limitées. Ces petits animaux ont donc un métabolisme lent et un faible taux de renouvellement cellulaire, ce qui leur permet de stocker de l'énergie pendant de longues périodes. Le fait que des éléments radioactifs aient été détectés dans leur organisme ne pose donc pas forcément de risque environnemental. Cela montre simplement que les polluants peuvent atteindre les recoins abyssaux beaucoup plus rapidement qu'on ne le pensait. À titre personnel, je pense quand même, comme le dit l'article un peu plus haut, qu'il faut faire attention à nos comportements futurs. Et à cette époque-là où il y avait eu ces fameux essais, on a vu, il y avait eu des répercussions, de toute façon déjà humaines. Je pense qu'on n'en était même pas à se poser la question de est-ce que ça allait contaminer à 11 000 mètres de profondeur dans l'océan, etc. Mais oui, c'est le cas, maintenant on le sait. Donc on ne pourra pas dire qu'on n'a pas été prévenu pour la suite.
Oui, parce qu'on avait un petit peu l'impression que ce qu'on ne voyait pas, donc ça n'avait pas lieu d'être en fait. Donc là, on ne s'est pas du tout de souci de savoir dans les profondeurs. Les profondeurs, c'est loin.
Oui, mais oui,
c'est
bien
ça.
Sûr.
C'est aussi
sauf
simple que ça.
Sauf que ça impacte. Et justement, ce qui est intéressant, c'est de bien montrer qu'il y a un échange entre les différents systèmes, entre la surface et le fond.
Bien sûr. Mais ça semble... En fait,
ça semble logique, hein, mais...
Il y a tellement de bon sens dans cet article qu'on se dit... Ce qui est d'ailleurs un peu surprenant, entre guillemets, c'est qu'on n'en parle que maintenant.
Oui, c'est vrai. Parce qu'il n'y a pas eu les études avant.
Oui, mais
ça fait... C'est plus récent, vraiment l'étude des fonds marins. Déjà, il y avait des problèmes techniques, je pense, au départ. Mais il y a moi, je vois de plus en plus de reportages vraiment sur les très grandes profondeurs. Donc, j'ai aussi l'impression que depuis plusieurs années.
Mais effectivement, il n'y avait peut-être pas la technique qui permettait.
Peut-être qu'il y a une meilleure technique et peut-être aussi qu'il y a, il y a aussi un intérêt. Parce que des fois, il y a des sujets qui sont porteurs en recherche et d'autres non. Alors, là, en tout cas, c'est vrai que c'est beaucoup plus étudié.
Et en tout cas, c'était un angle de vue justement intéressant sur cet aspect-là. Merci,
merci.
Carole. Alors, j'ai un peu l'impression que cette émission est encore anxiogène aujourd'hui.
Non,
je
non
sais
c'est
pas
vrai que moi, tous mes sujets sont assez sérieux.
Assez sérieux.
Mais je comptais sur toi, en fait.
Eh bien,
pour,
pas du tout. Pas du tout, parce que moi, je vous parle de cholestérol, avec notamment la consommation de viande rouge. Le bœuf, par exemple, bien sûr, qui est souvent montré du doigt, je vais y arriver, excusez-moi, parce qu'elle est associée à un risque accru de maladies cardiovasculaires. Et en France, concernant la consommation de viande, eh bien, le Programme National Nutrition Santé recommande de privilégier la volaille, une viande blanche, afin de limiter la consommation des autres viandes, je vais y arriver, excusez-moi, à 500 grammes par semaine. Et donc, nos apports protéiques quotidiens, donc les protéines que l'on doit assimiler, peuvent provenir de viande rouge, blanche, de produits laitiers, de végétaux, comme les légumineuses. Mais quel est l'effet de ces différentes sources de protéines sur le cholestérol sanguin? Eh bien, c'est ce que se sont demandé des chercheurs de l'hôpital pour enfants d'Auckland dans un article qui est paru dans la revue American Journal of Clinical Nutrition. Et ils pensaient au départ, les chercheurs, que la viande rouge aurait plus d'effets négatifs que la viande blanche sur le cholestérol. Parce que dans le... On a un petit peu l'impression, d'une façon générale, que c'est plutôt la viande rouge.
Oui.
Eh bien, ça n'est pas le cas. Leurs effets sur le cholestérol sont identiques lorsque les niveaux de graisse saturée sont équivalents. C'est ce qu'a expliqué dans un communiqué Ronald Krauss, qui est le professeur de médecine qui dirige une équipe de recherche sur l'athérosclérose. Et les participants étaient des hommes et des femmes âgés de 21 à 65 ans. Donc on a essayé d'avoir un panel assez large. Ils étaient séparés en deux groupes selon la consommation d'acides gras saturés. Soit ils en mangeaient beaucoup, soit ils en mangeaient peu, et ils devaient suivre un régime dans lequel les protéines venaient plutôt de viande rouge, ou bien de volaille, ou bien de végétaux. Et résultat, en fait, peu importait le niveau d'acide gras saturé, les personnes qui consommaient surtout de la viande, qu'elle soit rouge ou blanche, et c'est ça l'information, eh bien, avaient plus de cholestérol que celles qui consommaient des protéines végétales. Ils avaient plus de cholestérol LDL, qui est ce qu'on appelle un peu le mauvais cholestérol.
Oui.
Au final, donc, l'étude montre qu'il faut réduire sa consommation de viande blanche ou rouge pour diminuer son taux de cholestérol dans le sang. Les protéines végétales semblent plus bénéfiques. Pour donc le chercheur, d'autres effets de la consommation de viande rouge pourraient contribuer aux maladies cardiaques et ces effets devraient être explorés plus en détail dans le but d'améliorer la santé. Mais voilà, en tout cas, dans cet article, c'était intéressant, c'est que on avait un petit peu cette idée que la viande blanche, c'était bien. Et en fait, vis-à-vis du cholestérol, eh bien, c'est aussi mauvais que la viande rouge. Et je crois que c'est la première fois que j'en entends parler. En fait.
En tout cas, oui, moi, c'est la première fois que j'en entends parler.
Voilà, tu vas...
Merci. Non, mais je crois que c'est toi qui vas enchaîner parce que tu as un article... Je ne voudrais pas qu'on n'ait pas le temps que tu nous parles de cet article.
Ah bon, tu veux parler de... J'ai envie de parler de plumes.
C'est ça. Oui, moi, en fait, tu m'as fait un teasing. Je voulais absolument savoir de quoi il s'agissait.
Oui, cet article de Futura Science, dont le titre m'a un petit peu interpellé, parce que, en fait, au premier abord, je n'ai pas trop compris. Le titre de cet article, c'est « Les plumes sont apparues des millions d'années avant les oiseaux ».
Oui, moi non plus. Je n'ai
pas compris. Et après, en lisant l'article, en fait, on comprend un petit peu mieux, d'accord. Mais du coup, on va essayer de creuser l'idée, parce que on va parler des, comme les dinosaures par exemple, il y a les ptérosaures qui ont disparu il y a 66 millions d'années. Ce sont des reptiles volants qui semblent avoir été les premiers animaux après les insectes à pouvoir essayer d'investir le ciel, on va dire. Et longtemps, les scientifiques, ils ont pensé que les ptérosaures étaient couverts d'une fourrure. Et bien aujourd'hui, il y a une étude qui a révélé qu'au moins certains d'entre eux portaient des plumes. Et on pourrait donc situer l'apparition pardon, des plumes à environ 250 millions d'années, c'est-à-dire largement avant l'apparition des oiseaux. Mmh. Alors, plus en détail, on rappelle que l'Archaeopteryx...
Ah là, il va y avoir des noms compliqués.
Archaeopteryx est considéré oui. comme le plus vieil oiseau jamais retrouvé. Il vivait à la fin du Jurassique, on va dire à peu près à 150 millions d'années. Et tous les fossiles connus de l'Archaeopteryx présentent une diversité de plumes, des plumes en duvet sur le corps par exemple, des plumes plus longues sur les ailes, et ainsi de suite. Mais dans le milieu des années 1990, il y a déjà les chercheurs qui soupçonnent que certains dinosaures aurait pu porter des plumes. Pourtant, il semblait bien s'agir uniquement de dinosaures proches des oiseaux sur, on va dire, l'évolution, en tout cas sur l'arbre phylogénétique qui établit les relations de parenté entre les différents groupes d'êtres vivants, des dinosaures qui vivaient il y a environ 200 millions d'années. Et donc là, on a encore trouvé plus loin. Puis, il y a eu un dinosaure découvert en Russie, le Culindadodremeus, qui est encore venu modifier la donne. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on a une nouvelle information qui perturbe un petit peu ce qui a été établi. Mmh. Il était incroyablement bien conservé. Nous avons découvert des plumes sur tout le corps. C'est ce que raconte Maria McNamara, chercheure à l'Université d'Irlande. Et à la grande surprise des scientifiques, parce que ce dinosaure-là, il était vraiment bien éloigné de la branche des oiseaux, justement, sur l'arbre phylogénétique. Et aujourd'hui, les chercheurs estiment que les dinosaures, les ptérosaures et leurs ancêtres portaient déjà des plumes. Celles-ci seraient apparues après l'extinction massive du Permien-Trias pour faciliter les évolutions physiologiques et écologiques et afin de former pour ces animaux une espèce de couche isolante, protectrice et les autres fonctions de plume, notamment la partie vol ou on va dire aussi un petit peu la fonction de matuvu et d'apparat, eh bien seraient vues le jour une centaine de millions d'années plus tard. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'on associe toujours les plumes avec la fonction de vol. Mmh. Là, on associe la plume sur la fonction de protection du corps. C'est plutôt dans cet aspect-là. La plume est apparue d'abord pour faire ça. En tout cas, d'après les études de ces chercheurs, leur conclusion s'appuie sur des travaux d'une spécialiste du développement des plumes. Oui, oui, ça existe.
Ça existe.
Et ça existe. Oui. Et elle est française. Elle travaille à l'université de Grenoble. Selon elle, le même réseau de régulation du génome régit le développement des écailles des reptiles, des poils des mammifères et des plumes des oiseaux. Et donc, ça corrobore justement l'idée que les plumes ont effectivement pu évoluer très tôt. Mais là aussi, c'est un peu la première fois qu'on écoute le fait que les plumes qu'on associe tout de suite aux oiseaux, eh bien on les associe sur, on va dire, les dinosaures au sens large, mmh. avec cette fonction de protection du corps. Et on ne pensait pas justement que ces plumes seraient apparues si tôt dans l'évolution.
Et ouais, du coup, l'article, le titre
qui est les plumes sont apparues des millions d'années avant les oiseaux est bien vu, parce que ça attire l'œil. Alors que là, quelque part, c'était pas un lien direct. Les plumes sont apparues pour certaines fonctions et ensuite ça a évolué avec l'apparition des oiseaux. Ta curiosité a été assouvie ?
Tout à fait. Je suis très contente.
J'en suis satisfait. Maintenant, c'est à toi.
Oui, et donc pour terminer, on va revenir donc sur une époque beaucoup plus récente, hein, c'est-à-dire notre époque contemporaine. Et donc je vous emmène en Antarctique où l'apparition de trous dans la banquise est enfin expliquée. C'est un article qui est paru mi-juin dans Science et Avenir. Alors, on parle souvent de la fonte des glaces, etc. On se préoccupe beaucoup hein, de ce qui se passe à ce niveau-là. Et donc, il y a un phénomène, moi, que personnellement, j'en avais entendu un peu parler, mais que j'ai découvert hein, de manière un peu plus approfondie. C'est ce qu'on appelle l'apparition de Polynie dans les glaces hivernales. Et ce phénomène, en fait, il est resté longtemps inexpliqué, ou en tout cas très mal expliqué. Donc, des chercheurs en océanographie ont croisé différentes données pour comprendre, du coup, ce phénomène. Durant les hivers 2016 et 2017, deux vastes trous dans la banquise de la mer de Weddell en Antarctique sont apparus en fait assez loin de la côte. Le phénomène irrégulier est connu hein, depuis le milieu des années 1970. Donc il porte le nom, comme je l'ai dit, de Polynie, mais ses causes sont mal connues. Donc une équipe de chercheurs en océanographie des universités de Washington, Seattle et de Californie à San Diego s'est penchée sur justement ces deux dernières Pollini, hein, apparues en 2016 et 2017, en raison en fait de leur superficie impressionnante. Parce que c'est vrai que là, je parle de trous, mais on parle de superficie de 33 000 km², donc pour celle de 2016, pendant 3 semaines, et 55 000 km² en septembre-octobre en 2017. Donc, ils ont publié leurs travaux dans la revue Nature, et leur conclusion, eh bien, c'est qu'une combinaison de facteurs qui surviennent obligatoirement au même moment et incluent des caractéristiques inhabituelles dans les eaux de l'océan Austral et des vents violents également approchant de la force des ouragans sont nécessaires pour justement créer ces phénomènes. Ils se sont servis de données collectées par un programme de l'université de Princeton dédié à l'océan Austral, le SOCOM. Celui-ci se sert d'instruments de mesure qui dérivent avec les courants marins. Le programme océanographique Argo de l'UNESCO, utilisant un réseau de flotteurs pour superviser température et salinité des eaux, a aussi été mis à contribution, hein, ainsi que des images satellites s'étalant sur des dizaines d'années. Et ils ont également équipé des éléphants de mer avec des sondes. Donc voilà, tous les niveaux pour recueillir de la donnée. Alors, les fameux éléphants de mer, ils portaient ce qu'on appelle des sondes CTD, qui mesurent en fait trois choses: la conductivité, la température et la profondeur. L'intérêt, hein, de se servir de ces animaux, ça réside dans le fait qu'ils peuvent plonger très loin, c'est-à-dire jusqu'à 600 mètres lorsqu'ils sont en quête de nourriture, voire jusqu'à 2000 mètres en d'autres occasions. Les mesures peuvent avoir lieu au cours de différentes phases d'immersion dans une même journée. Alors, suite à toutes ces mesures, les chercheurs ont appris que en fait, les vents au large du continent sont de plus en plus violents et se rapprochent de plus en plus des côtes. Ils interagissent avec un plateau montagneux sous-marin, le Maud Rise, jusqu'à provoquer un vortex d'eau marine. Tous ces phénomènes finissent par déclencher une sorte de retournement où les eaux plus chaudes des profondeurs remontent à la surface et celles de la surface passent en dessous. Une fois en hauteur, les eaux issues des profondeurs sont exposées à l'air froid. Leur température baisse alors jusqu'à devenir inférieure à celle des eaux passées en profondeur. Du coup, ces dernières, elles reviennent près de la surface, le retournement reprend et en fait ainsi de suite, hein, c'est un cercle, ça ne s'arrête pas, cette boucle continuelle en fait, elle empêche aux glaces de se former à cet endroit-là et crée la Pollini. Donc on a l'explication, alors qu'avant on ne savait pas pourquoi. Et c'est vrai que je trouve que c'est vraiment des espaces gigantesques. On ne savait pas pourquoi ils se formaient.
C'est bien parce que ça nous redonne un petit peu aussi un recul sur cet aspect-là. C'est ça qui est intéressant, encore sur des sujets qu'on évoque pas tant que ça, oui, quelque part.
Et donc là, visiblement, c'est un phénomène qui est naturel, qui au départ n'est pas dû au réchauffement climatique. Évidemment, on espère que le réchauffement va accentuer déjà la fissuration des glaces et intervient beaucoup plus tôt. Il y en aura de moins en moins. Donc, dans tous les cas, ces phénomènes vont continuer à se produire, mais après, il y aura forcément un impact.
Ça deviendra d'une banalité après, oui. Comme ça, on n'en parlera plus. Ça sera fait.
Après, il n'y aura plus de glace, donc en fait, on n'ira pas regarder.
S'il y a des trous dans la banquise, il n'y aura plus de banquise.
Exactement.
Je te jure. Bon, ça, c'est quand même. On a ce genre de sujet assez régulièrement pour bien sûr essayer d'avoir une prise de conscience. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelques années, ces sujets-là n'étaient absolument pas abordés en fait. Mmh. Et là, on se rend compte qu'il y a différents. Enfin, ça revient régulièrement sur différents points de vue, différentes situations. C'est ça qui est intéressant en fait. Alors, moi, je vais essayer d'être un petit peu optimiste. Allez, pour une fois, on va quand même parler de médecine. Mmh. Et avec cette information qui, là encore, peut-être essayer de va un petit peu dérouter ce qu'on va parler. J'allais dire de science-fiction, même si ça commence à être concret. On va prendre le cas des patients qui sont privés de l'usage de la parole, qui sont donc dans l'incapacité de parler à cause d'un AVC, d'une paralysie. Mmh. Et on se pose la question s'ils pourraient se servir un jour d'un décodeur qui pourrait transformer les signaux de leur cerveau en paroles.
Ah oui, extraordinaire.
Eh bien, c'est une piste sur laquelle travaillent des chercheurs, selon une étude qui a été publiée il y a quelques semaines déjà, ça date du mois de mai, fin avril. Donc, on n'a pas eu le temps de l'évoquer dans cette émission depuis, mais je me dis que c'était quand même important d'évoquer ça, parce que le titre, c'est « Un implant pour traduire les pensées en paroles ». En fait, ces chercheurs ont inventé un décodeur qui reproduit des paroles synthétiques par ordinateur à partir des signaux cérébraux qui déclenchent les mouvements correspondants de la bouche. Et ça a été présenté dans la revue sérieuse Nature, donc du coup ça a eu un impact médiatique assez important fin avril. Cette technique, elle n'en est qu'à ses balbutiements bien sûr, sa mise en application n'est pas pour demain, d'accord, toutefois ça fait naître un espoir, parce qu'elle pourrait un jour bénéficier aux patients qui savent parler mais qui en ont perdu la capacité. Donc l'un des auteurs de l'étude, il s'appelle Edouard Chang, nous sommes à l'université de Californie, je ne crois que je ne l'ai pas dit, hein, San Francisco, il explique qu'il a été interviewé notamment par l'AFP, parce que je dis que pour, là comme tu parles de Nature, tu as tous les grands groupes de presse qui se focalisent là-dessus. Il a été interviewé à l'AFP, il a dit notre objectif de longue date, excusez-moi, c'est de créer une technique permettant de restaurer la communication pour des patients incapables de parler, que ce soit en raison de problèmes neurologiques comme les AVC ou de maladies comme certains cancers. Grâce à des mouvements des yeux ou de la tête, des dispositifs permettent déjà d'aider ces patients à composer des mots, lettre par lettre. Mais bien qu'améliorant la qualité de vie, ces systèmes ils sont lents. Ça ne produit tout au plus que 10 mots par minute, ce qui est quand même très peu. Alors que la parole, on peut considérer un débit normal de 150 mots par minute. L'idée des chercheurs, c'est en fait d'aller puiser directement les mots à la source, c'est-à-dire dans le cerveau. Alors il y a une expérience qui a été menée avec 5 personnes traitées pour une épilepsie. Et dans le cadre de ce traitement, il y a eu des électrodes qui étaient placées sur le cerveau des patients qui ont été invités à lire à voix haute des phrases prédéfinies. Le but, c'était, donc eux, ils étaient capables de parler, hein. Le but, c'était d'identifier grâce aux électrodes les signaux cérébraux responsables de l'articulation des mots. Et ensuite, ils ont décodé ces signaux en y associant donc les mouvements nécessaires à la prononciation. On utilise les mâchoires, la langue, les lèvres, le larynx, et ainsi de suite. Et donc, sur la base de ces mouvements, ils ont reproduit ces phrases par ordinateur. Alors, toutes en anglais, ces phrases elles sont d'une construction simple. Hein, par exemple, on nous dit « la preuve que tu cherches ne peut pas être trouvée dans les livres ». Donc, ça serait toujours des phrases quand même d'un déroulement assez simple, mais bon, c'est quand même la base. Les fichiers audio qui ont été rendus publics par les scientifiques sont totalement étonnants et vous pouvez regarder ça sur certains sites internet. Alors, la voix, elle est quand même synthétique, donc elle avale entre guillemets certains mots, mais d'autres sont clairement compréhensibles, presque autant que dans la version naturelle des phrases qui sont étudiées. Les signaux cérébraux liés au mouvement de la parole sont en partie communs à tous les individus, c'est ce que nous explique Edouard Chang. Il sera un jour possible qu'un décodeur paramétré sur un individu doué de la parole serve à un patient incapable de parler qui pourra le contrôler grâce à sa propre activité cérébrale. Alors, ce qui est plus étonnant encore, c'est que les chercheurs on demandait à un participant de mimer des paroles sans les prononcer, un petit peu comme on chante en playback. Et les résultats, alors bien sûr, ils étaient moins bons, mais quand même assez bluffants et assez intéressants. Et les scientifiques estiment qu'il est possible de synthétiser ainsi des mots par ordinateur. Donc voilà, on est dans une phase de prototype. Donc là, on est vraiment, comme le dit très bien l'article, sur des balbutiements de cette nouvelle technologie. Mais on aurait l'idée de pouvoir essayer de traduire en paroles ce que tu penses. C'est et ça te fait peur.
Oui, oui, oui. Et d'un côté, là, ça pourrait vraiment
là
aider
encore,
des gens.
Il peut y avoir des dérives.
Oui. Moi, je pensais vraiment, parce que pour le coup, pour avoir une vision de tous les gens qui sont aphasiques pour plein de raisons, c'est vraiment être coupé du monde quand on ne peut plus communiquer. Il faudrait bien sûr encadrer l'utilisation, mais ça pourrait quand même être extraordinaire.
Non, bien sûr, là, on est toujours sur les mêmes sujets.
On avait dit une note positive. Hein.
Non, mais la note positive était entièrement raison, c'est que c'est hyper prometteur. Tout de suite, après, on peut avoir peur des dérives qu'il peut y avoir, mais à la base, cette information, elle est prometteuse et elle est optimiste.
Oui.
Parce qu'on se dit, pour ces personnes-là, mais ça doit faire quand même bizarre de se dire « je pense à ce que je veux dire ». Et un ordinateur va le dire. Enfin, je sais pas. Ça va être. C'est une phase assez troublante, je trouve, d'un point de vue intime à suivre également. Mais en tout cas, voilà. C'est un article qui avait fait beaucoup parler fin avril, qui était paru dans Nature. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on voyait pas mal. Parce que les articles de presse qu'on étudie là dans cette émission, en général, ce sont quand même des sur des sites ou sur des revues, on va dire, scientifiques.
Oui, des références sérieuses, etc. Voilà. Oui, tout à fait.
Mais qui restent assez confidentielles. Enfin, on a beaucoup d'articles qu'on évoque dans ces émissions. Ça reste quand même confidentiel. Et puis parfois, pouf, tu as des infos qui sortent un peu plus. Et celle-ci, ce qui est paru sur Nature, ça fait un petit peu interpeller les médias un petit peu plus généralistes, on va dire, parce qu'ils se sont dit là... Alors, il y a bien sûr une notion un peu de science-fiction, bien sûr, mais il y a une notion d'innovation et de promesse qui est quand même assez extraordinaire pour cet aspect-là, bien sûr. En tout cas, voilà, j'avais envie de vous parler de ça. J'ai un peu l'impression que c'est la fin de cette émission. Je ne sais pas du tout si tu avais prévu...
Non, j'ai terminé.
Tu avais terminé. Écoute, c'est parfait, parce que je vois que c'est déjà... L'heure est passée tellement vite avec toi, Carole. C'était la dernière émission de cette saison. La semaine prochaine, on se retrouve pour faire un petit peu, on va dire, le best-of, pour parler un mauvais anglais, mais en tout cas, on va essayer de faire une petite rétrospective. Voilà, de ce qu'on
infos.
A pu voir
les depuis meilleures actualités.
La saison depuis donc la septembre 2018. Donc ça sera la semaine prochaine à 12h sur l'antenne de Graphite. Donc du coup, je n'ai pas eu le temps personnellement de vous parler des derniers articles que j'avais prévus. Mais voilà, on ne peut pas tout parler. De toute façon, vous avez la possibilité de suivre un peu l'actualité scientifique aussi sur différents sites internet. Et puis on se retrouvera en septembre pour continuer à feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique. Mais voilà, j'en avais rapidement parlé la semaine dernière. Je n'aurai pas le temps d'en parler aujourd'hui. Des résidus de pesticides dans trois quarts des fruits et la moitié des légumes. Et on est en France. Donc ça, c'est assez important. Il y avait au niveau médecine intéressant ce taux de stress qui pouvait être mesuré par un simple test de salive. Ça, c'était aussi une application assez, assez concrète. Et on avait également au niveau... médecine, on s'est rendu compte qu'en fait le corps humain ne peut pas brûler plus d'un certain nombre de calories par jour, c'est-à-dire qu'on a pu découvrir la limite absolue à l'endurance humaine. C'est pas la peine de courir tout le temps, tous les jours, toute la journée. Il y a un moment où non, ça ne servira à rien, et ça me rassurait un petit peu, mais voilà, on n'aura pas le temps d'en finir. Et puis enfin, je n'aurai pas le temps non plus de parler de cet article qui disait qu'il ne sert à rien de simuler l'orgasme, et là c'est scientifiquement prouvé, Carole, ça ne sert à rien, je n'aurai pas le temps d'en parler dans cette émission, et c'est fort dommage. Peut-être l'année prochaine.
Voilà.
Tu le savais justement.
Oui, parce que ça c'est intemporel. Oui, je pense que là, la fin de l'émission.
Merci Carole, on se retrouve samedi
Merci
prochain
Jean-Noël.
Pour refaire un petit
à
peu la rétrospective de cette saison 2018-2019. Quant à vous, merci de votre fidélité. Vous continuez à suivre les émissions de Graphite sur graphite.net et sur 94.9 pour la bande FM. On se retrouve samedi prochain pour la dernière de la saison. Bonne journée à tous, à bientôt.